Chapitre 2. Deux heures sonnaient lorsque Mademoiselle Lucienne et Maxence sortirent du bureau du commissaire de police, elle, pensive et tout émue des perspectives qu'elle venait d'entrevoir, lui, sombre et irrité. Le temps, qui avait menacé toute la matinée, s'était mis décidément au beau. Une brise tiède chassait à l'horizon les derniers nuages, et comme il arrive, dès que par hasard survient un dimanche sans pluie, tout Paris se précipitait dehors, altéré de grand air et de soleil. Sur toute la ligne des boulevards, les boutiques fermaient à grand bruit, les omnibus passaient complets, les cochers de fiacres pressaient l'allure de leurs chevaux, et tout le long des trottoirs, les promeneurs endimanchés s'en allaient par bandes, se hâtant pour arriver à la gare du chemin de fer de Vincennes avant le départ du train. « Mais n'est-il donc que nous de malheureux ?» grondait Maxence, dont toute cette joie irritait la douleur. « Ne faudrait-il pas, murmurait Mademoiselle Lucienne, que Paris peut y entier le deuil parce que nous souffrons ?» Et c'est sans échanger une parole de plus qu'ils arrivèrent à l'hôtel des Folies. La Fortin était encore sur sa porte, pérorant au milieu d'un groupe avec une volubilité que rien ne lassait. C'était véritablement un coup de fortune pour elle que de loger le fils de ce caissier qui avait volé 12 millions et qui était en ce moment le sujet de toutes les conversations et dont le nom était dans toutes les bouches. Elle devait, à cette circonstance, d'être tout à coup devenue un personnage. Les boutiquiers du quartier, qui, vu sa réputation suspecte, ne l'avait jamais salué jusqu'alors, l'accablait de prévenances depuis le matin et la courtisait bassement pour qu'elle leur donnât des détails. Et sa cupidité ne s'appétissait guère moins que son amour-propre. Elle calculait que lors du procès, on prononcerait infailliblement le nom de l'hôtel des Folies et que celui serait une réclame excellente et une source de bénéfices certaine. Déjà même en prévision d'un surcroît de clientèle, elle avait tenu conseil avec le sieur Fortin et agité la question de faire repeindre l'escalier et d'augmenter tous les loyers de 25%. Voyant arriver Maxence et Mademoiselle Lucienne, elle abandonna le groupe dont elle était le centre et laissa voir de son plus obséquieux sourire. « Déjà fini cette petite promenade ?» leur dit-elle. Mais ils ne répondirent pas, et s'étant engouffrés dans l'étroit corridor, ils se hâtèrent de regagner leur quatrième étage. C'est avec un mouvement de rage qu'en entrant dans sa chambre, Maxence jeta son chapeau sur le lit, et après s'être un moment promené le long en large, revenant se planter devant Mademoiselle Lucienne. « Eh bien, dit-il, vous êtes contente maintenant ?» C'est d'un air de commisération profonde qu'elle le considérait, sachant trop sa faiblesse pour s'irriter de son injustice. « Et de quoi dois-je être satisfaite ?» demanda-t-elle doucement. « Eh bien, j'ai fait ce que vous avez voulu. »« Ce que vous dictez la raison, mon ami. »« Soit, bon, je ne chicanerai pas sur les termes. J'ai vu votre ami, le commissaire de police. Bon, en suis-je plus avancé ?» Imperceptiblement, elle haussa les épaules. « Mais qu'espériez-vous donc de lui » fit-elle. « Pensiez-vous qu'il fût en son pouvoir de faire ce qui ne soit pas ? Supposiez-vous que, par le seul acte de sa volonté, il allait combler le déficit de la caisse du crédit mutuel et réhabiliter votre père ? Non, non, je ne suis pas fou encore. Eh bien alors, pouvait-il faire mieux que de vous promettre son concours, le plus ardent et le plus dévoué ? Mais il ne laissa pas poursuivre. « Et qui me prouve, s'écria-t-il, qu'il ne s'est pas moqué de moi ? S'il était sincère, pourquoi ses réticences et ses énigmes ? Il prétend que je veux compter sur lui, parce que me servir, moi, c'est vous servir, vous. Qu'est-ce que cela signifie ? Mais quel rapport existe entre votre situation et la mienne, entre vos ennemis et ceux de mon père ? Et moi, j'ai répondu à toutes ces questions. Je me suis livré, pauvre niais. Mais l'homme qui se noie se raccroche à un brin d'herbe. Je me noie, moi, j'enfonce, je sombre. Il s'affaissa sur une chaise et, cachant son visage entre ses mains, Oh, je souffre horriblement, gémit-il. La jeune fille s'était approchée, mais d'un accent sévère en dépit de son émotion. Seriez-vous donc un lâche, prononça-t-elle. Quoi, au premier malheur qui vous frappe, car c'est le premier malheur réel de votre vie, Maxence, vous désespérez. Un obstacle se dresse et, au lieu de rassembler toute votre énergie pour le surmonter, vous vous asseyez et vous pleurez comme une femme. Mais qui donc donnera du courage à votre mère et à votre sœur si vous vous abandonnez ainsi? À de telles paroles, prononcées par cette voix qui avait tout pouvoir sur son âme, Maxence s'était redressé. Oui, je vous remercie, mon ami, dit-il. C'est bien à vous de me rappeler ce que je dois à ma mère et à ma sœur. Pauvre femme, elle se demande sans doute ce que je suis devenu. Il faut aller les retrouver, interrompit la jeune fille. Résolument, il se leva. J'y vais, répondit-il. Je serais indigne de vous si je ne savais pas hausser mon énergie au niveau de la vôtre. Et ayant serré la main de Mademoiselle Lucienne, il sortit. Mais ce n'est pas par le chemin ordinaire qu'il regagna la rue de Saint-Gilles. La rue de Turenne, où tout le monde le connaissait, lui faisait horreur. Il prit un grand détour pour entrer sans rencontrer personne. Enfin, vous voilà, lui dit la servante en lui ouvrant la porte. Madame était joliment inquiète, elle est au salon avec Mademoiselle Gilberte et Monsieur Chapelain. C'était exact. Après sa démarche infructueuse pour arriver jusqu'à Monsieur de Thaler, l'ancien avoué avait déjeuné rue Saint-Gilles. Il était resté, ayant, disait-il, besoin de voir Maxence. Aussi, dès que le jeune homme parut, s'autorisant de son âge et d'une vieille intimité, Comment, lui dit-il, osez-vous laisser votre mère et votre sœur seules dans une maison où à tout moment peut tomber quelque créancier brutal? Oui, j'ai tort, dit Maxence, qui aima mieux s'avouer coupable que d'entamer une explication. Alors ne recommencez plus, reprit Monsieur Chapelain. Je vous attendais pour vous dire que je n'ai pas pu parler à Monsieur de Thaler et que je ne me soucie pas d'affronter une seconde fois l'impudence de ses valets. À vous donc le soin de lui reporter les 15 000 francs qu'il avait apportés à votre père. Remettez-les lui en main propre et ne les lâchez pas sans un reçu. Après quelques secondes de recommandations encore, il s'éloigna, laissant enfin seul Madame Favorale et ses enfants. Madame Favorale ouvrait la bouche pour demander à Maxence les raisons de son absence, mais Mademoiselle Gilberte l'interrompit. J'ai à te parler, ma mère, dit-elle avec une précipitation singulière, et à toi aussi, mon frère. Et tout de suite, elle se mit à leur raconter la visite étrange de Monsieur Costeclar, son incroyable audace et ses offensantes déclarations. Maxence mordait les poings de colère. Mais je ne me suis pas trouvé là, s'écriait-il pour le jeter dehors. Mais un autre s'y était trouvé, et c'était là qu'en voulait venir Mademoiselle Gilberte. Mais l'aveu était difficile, pénible même, et son embarras était grand, et très visible la contrainte qu'elle s'imposait. Voici longtemps, ma mère, reprit-elle enfin, que vous m'avez soupçonné de vous cacher quelque chose. Bien interrogé, je vous ai menti. Oh, non que j'eusse à rougir de rien, mais parce que je craignais pour vous la colère de mon père. Et c'est d'un œil hébété d'étonnement que la considéraient sa mère et son frère. Oui, j'avais un secret, reprit-elle. Hardiment, sans consulter personne, me fiant aux seules aspirations de mon cœur, j'avais engagé ma vie à un inconnu. J'avais choisi l'homme dont je voulais être la femme. La geste éperdue, Madame Faverolles levait les mains au ciel. Mais c'est de la folie, répétait-elle. Malheureusement, poursuivait la jeune fille, entre cet homme, mon fiancé devant Dieu et moi, se dressait un obstacle terrible. Il était pauvre, il croyait mon père très riche, et il m'avait demandé 3 ans pour conquérir une fortune qui lui permit de demander ma main. Elle s'arrêta, tout le sang de son cœur affluait à son visage. Ce matin, reprit-elle, au bruit de notre désastre, il est venu. Ici ? Interrompit Maxence. Oui, mon frère, ici. Il est arrivé au moment où, insulté lâchement par M. Costeclar, je lui commandais de se retirer et où, au lieu de sortir, il marchait sur moi les bras étendus. Il a osé pénétrer ici ? Murmurait Madame Faverolles. Oui, ma mère, il est entré juste à temps pour saisir M. Costeclar au collet et le jeter à mes pieds, blême de peur et demandant grâce. Il venait, malgré l'horrible malheur qui nous frappe, malgré la ruine et malgré la honte, m'offrir son nom et me dire que dans la journée, il enverrait un ami de sa famille pour apprendre ses intentions. Mais elle fut interrompue par la servante, qui, ouvrant la porte du salon, annonça « Monsieur le comte de Villegré !» S'il était venu à l'idée de Madame Faverolles et de Maxence que Mlle Gilperte avait été dupe de quelque lâche intrigue et avait cédé à d'inavouables entraînements, il dut suffire pour les désabuser de la seule présence de l'homme qui entrait. Il était assez terrible d'aspect, avec sa tournure militaire, ses façons brusques, sa grosse moustache blanche et la cicatrice qui lui balafrait le front. Mais pour être rassuré et se sentir confiance, il ne fallait que voir sa large face, à la fois énergique et débonnaire, son œil clair où éclatait la loyauté de son âme, et ses lèvres épaisses et rouges, qui jamais ne s'étaient ouvertes pour proférer un mensonge. En ce moment, cependant, il ne jouissait pas de tous ses moyens. Ce vaillant homme, ce vieux soldat, était timide. Il se fut senti plus à l'aise et l'esprit beaucoup plus libre sous le feu d'une batterie que dans cet humble salon de la rue Saint-Gilles, sous le regard inquiet de Maxence et de Madame Faverolles. Ayant salué, ayant adressé à Mademoiselle Gilberte un signe d'amicale reconnaissance, il était resté court, à 2 pas de la porte, son chapeau à la main. Oh, l'éloquence n'était pas son fort. La leçon lui avait été bien faite à l'avance, mais il avait beau tousser, il avait beau passer le doigt autour de son col pour lui donner du jeu, son commencement lui restait dans la gorge. Gardant assez de sang-froid pour comprendre combien il était urgent de lui venir en aide. « Je vous attendais, monsieur, » lui dit Mademoiselle Gilberte. Sur cet encouragement, il s'avança, s'inclinant devant Madame Faverolles. « Je vois que ma présence vous surprend, madame, » commença-t-il. « Je dois avouer que, elle ne m'étonne pas moins que vous. Mais les circonstances anormales, comment les démarches, exceptionnelles. En toute autre occurrence, je ne tomberai pas chez vous comme une bombe. Mais nous n'avions pas de temps à perdre, gaspillé en formalités cérémonieuses. Je vous demanderai donc la permission de me présenter moi-même. Je suis le général comte de Villegré. » Maxence lui avait avancé un fauteuil. « Je vous écoute, monsieur, » lui dit Madame Faverolles. Il s'assit après un nouvel effort. « Je suppose, madame, reprit-il, que mademoiselle votre fille vous a expliqué ce que notre situation a de bizarre, ainsi que j'avais l'honneur de vous le dire, de délicat, de peu conforme aux usages reçus. » Mademoiselle Gilberte l'interrompit. « Mais lorsque vous êtes arrivé, monsieur le comte, » dit-elle, « je commençais seulement à exposer les faits à ma mère et à mon frère. Au geste du vieux soldat et au mouvement de sa physionomie, il fut aisé de voir combien l'épouvantait la perspective d'une explication. Boum, boum, assez difficile. Pendant néanmoins son parti en brave, « C'est bien simple, dit-il, je viens au nom de monsieur de Trégard. » Maxence bondit sur sa chaise. C'était bien ce nom qu'il venait d'entendre prononcer pour la première fois par le commissaire de police. « Trégard, répéta-t-il d'un ton d'immense étonnement. « Oui, fit monsieur de Villegrêle, connaîtriez-vous ? « Non, non, monsieur, non, non. Marius de Trégard est fils du plus honnête homme que j'ai connu, du meilleur ami que j'ai eu, du marquis de Trégard, enfin, qui est mort il y a quelques années, mort de chagrin à la suite de revers de fortune, tout à fait inexplicable. Marius serait mon fils, qui ne me serait pas plus cher. Il n'a plus de famille, je n'ai pas de parents, j'ai reporté sur lui tous les sentiments affectueux qui restaient encore au fond de mon vieux cœur. Et j'ose dire que jamais garçon ne fut plus digne d'être aimé. Je le connais. À la plus haute fierté, à une loyauté supérieure, à une loyauté incapable d'une transaction, il joint un esprit souple et délié, une rare finesse et tout autant de savoir-faire qu'il en faut pour battre les gredins les plus retors. Il y a bonne fortune par la raison qu'il a un peu légèrement abandonné tout ce qu'il possédait à de soi-disant créanciers de son père, mais quand il voudra être riche, il le sera, et même, il est possible qu'il le soit avant peu. Je sais ses projets, ses espérances, ses ressources. Mais, comme s'il eût reconnu qu'il s'aventurait sur un terrain dangereux, le comte de Villegrée s'arrêta court. Et après un moment, employé à reprendre haleine, « Bref, continua-t-il, Marius n'a pu voir Mademoiselle Gilberte et apprécier les rares qualités de son cœur et de son esprit sans l'aimer éperdument. » Madame Favoral eut un geste de protestation. « Permettez, monsieur, commença-t-elle. » Mais il lui coupa la parole. « Je vous entends, madame, reprit-il. Vous vous demandez comment monsieur Trégard a pu voir mademoiselle votre fille, la connaître, la juger, sans que vous ayez jamais rien vu ni su. Rien de si simple, et même, si j'ose le dire, de si naturel. Marius dissimulait le pauvre garçon, bien contre son gré, je vous le jure, et uniquement parce qu'il était interdit, sous peine d'être soupçonné de cupidité, d'aspirer, lui qui n'avait rien à la main d'une jeune fille dont le père passait pour très riche, quelle part prendre ? S'adresser directement à Mlle Gilberte. Et c'est ce qu'il a fait. Et Mlle Gilberte, ayant compris qui il était, qu'il est digne d'elle, ils se sont entendus. Oh, ce n'était pas, je le sais, parfaitement régulier, mais on est jeune, on sait, mais quand on ne peut pas faire autrement, on ruse. Les vues de Marius étaient d'ailleurs parfaitement honorables. Et la preuve, c'est que moi, dans ma position, à mon âge, avec ma barbe blanche, j'ai consenti à devenir son complice et à lui servir de compère lorsque, pour la première fois sur la place royale, il a déclaré ses intentions à Mademoiselle Gilberte. Si jamais le comte de Villegrée avait donné à Marius une preuve d'amitié, c'était certes en cette occasion. Oh, il était à la torture. Il suait sous son habit noir de cérémonie. Il peinait. Il soufflait. Mais il s'embarrassait dans ses phrases. Il multipliait d'une façon inquiétante ses « hum » et ses « vroum ». Ses explications n'expliquaient rien. Mademoiselle Gilberte eut pitié de lui. Prenant la parole, simplement et brièvement, elle raconta son histoire et celle de Marius. Elle dit le serment qu'ils avaient échangé, comment ils s'étaient vus deux fois, rue des Minimes et boulevard Beaumarchais, comment enfin ils avaient toujours eu des nouvelles l'un de l'autre, par le très innocent et très inconscient signor Gisponde Pucci. Maxence et Madame Favorable étaient abasourdis. De toute autre bouche que de la bouche même de Mademoiselle Gilberte, un tel récit leur eût paru inouï, invraisemblable, absurde. Ils se fussent récriés, et de toutes leurs forces, ils eussent protesté. Mais c'était bien elle qui parlait, tout rouge, il est vrai, et toute confuse, et cependant de cet accent de placidité qui était d'un de ses charmes les plus grands. « Ah, oh, mademoiselle, ma sœur, pensait Maxence, qui jamais se fût douté de cela, à vous voir toujours si calme et si résignée. Et de son côté, est-il possible, se disait Madame Favoral, que j'ai été à ce point aveugle et sourde, quoi l'homme qu'aimait ma fille venait s'asseoir à deux pas de moi et je ne soupçonnais pas sa présence. Il lui parlait, lui répondait, et je n'entendais rien. Quant au comte de Villegré, c'est en vain qu'il lui cherchait des mots pour traduire la reconnaissance qu'il devait à Mademoiselle Gilberte de lui avoir épargné ses difficiles explications. « J'en serais morbleu pas tiré comme elle, songeait-il, en homme qui ne s'abuse pas sur son compte. Mais dès qu'il eut achevé, s'adressant à Madame Favoral, « Maintenant, madame, reprit-il, vous savez tout, et vous pouvez comprendre que l'irréparable malheur qui vous frappe a supprimé l'obstacle qui jusqu'ici avait retenu Marius. » Il se leva, et d'un ton solennel, sans hum ni boum, cette fois, « J'ai l'honneur, madame, prononça-t-il, de vous demander la main de mademoiselle Gilberte Favoral, votre fille, pour mon ami Yves-Marius de Genoux, marquis de Trégard. » Un profond silence suivit. Mais ce silence, le comte de Villegré dut l'interpréter en sa faveur, car courant à la porte du salon, il l'ouvrit et appela « Marius !» Ce qui venait de se passer, Marius de Trégard l'avait prévu, et d'avance, et de point en point, annoncé au comte de Villegré. Il était de ces hommes dont le sang-froid semble dominer les événements, tant après les avoir préparés, ils excellent à en tirer parti. Étant donné le caractère de Madame Favoral, il savait ce qu'il fallait en attendre. Mais il avait ses raisons de ne rien redouter de Maxence. Et s'il se défiait des talents diplomatiques de son ambassadeur, il comptait absolument sur l'énergie de Mademoiselle Gilberte. Et il avait calculé si juste qu'il avait tenu à accompagner son vieil ami rue Saint-Gilles pour pouvoir apparaître au moment décisif. En arrivant, lorsque la servante était venue leur ouvrir, « Vous allez, lui avait-il dit, annoncer à vos maîtres, monsieur que voici, qui est le comte de Villegré, vous ne leur parlerez pas de moi, qui resterai à l'attendre dans la salle à manger. » Cet arrangement n'avait pas paru des plus naturels à cette fille, mais la maison, depuis 2 jours, était le théâtre d'événements si extraordinaires qu'elle en était tout ahurie et dans des dispositions à s'attendre à tout. Puis Marius lui parlait de ce ton qui n'admet pas de réplique. Et enfin, elle reconnaissait en lui le monsieur qui était déjà venu dans la matinée et qui avait eu, en présence de Mademoiselle Gilberte, une si violente altercation avec M. Costeclar, car elle connaissait vaguement la scène. Son attention ayant été éveillée par de grands éclats de voix, elle n'avait pas été sans aller appliquer alternativement l'œil et l'oreille à la serrure du salon, ce qui l'empêche qu'en annonçant le comte de Villegré, elle avait essuyé des yeux et du geste, elle avait essayé de prévenir Mademoiselle Gilberte ou Maxence. Oh, ils étaient trop bouleversés pour rien voir. Alors tant pis, s'était-elle dit, avec cette admirable insouciance des serviteurs parisiens. Et comme de la journée, elle n'avait eu une minute pour faire son ménage, elle s'était mise à la besogne, laissant Marius de Trégard seul dans la salle à manger. Il s'était assis, impassible en apparence, réellement agité de cette trépidation intérieure de l'incertitude dont ne peuvent se défendre les hommes les plus forts aux heures décisives de leur vie. Jusqu'à un certain point, c'était son avenir qui se décidait de l'autre côté de cette porte qui venait de se refermer sur M. de Villegré. Aux intérêts si chers de son amour, d'autres intérêts étaient liés et qui exigeaient un succès immédiat. Et il eût donné une bonne chose pour entendre ce qu'il se disait. Il songeait qu'un mot maladroit pouvait tout mettre en question et lui susciter de nouveaux embarras. Comptant les secondes au battement de son pouls, se disait « Oh, comme il tarde !» Aussi, lorsque la porte s'ouvrit enfin et que son vieil ami l'appela, fut-il debout d'un bond. Et rassemblant tout ce qu'il y avait de sang-froid, il entra. Maxence s'était levé pour le recevoir, mais en l'apercevant, il recula et la pupille dilatée par une immense surprise. « Oh mon Dieu !» fit-il d'une voix étouffée. Mais M. de Trégard ne sembla pas remarquer sa stupeur. Très maître de soi, malgré son émotion, il examinait d'un rapide regard le comte de Villegré, Madame Favoral et Mademoiselle Gilberte. À leur attitude et à leur physionomie, il devina le point précis où en étaient les choses. Et s'avançant vers Madame Favoral, et s'inclinant avec un respect qui certes n'était pas joué, « Vous avez entendu le comte de Villegré, madame » prononça-t-il d'une voix légèrement altérée. « J'attends mon arrêt. » De sa vie, la pauvre femme avait été si affreusement troublée. Tous ces événements qui se succédaient avaient brisé les faibles ressorts de son âme. Elle était hors d'état de rassembler ses idées, de prendre une détermination quelconque. « En ce moment, monsieur, balbutia-t-elle, prise ainsi à l'improviste, vous répondre me serait impossible. Accordez-moi quelques jours de réflexion. Nous avons d'anciens amis que je dois consulter. » Mais Maxence, remis de sa stupeur, l'interrompit. « Des amis, ma mère » s'écria-t-il. « Nous en reste-t-il encore donc encore? Est-ce que les malheureux ont des amis? Quoi? Lorsque nous périssons, un homme de cœur nous tend la main? Vous demandez de réfléchir. À ma sœur qui porte un nom désormais flétri, le marquis de Trégard offre son nom, et vous songez à consulter. » La malheureuse femme secouait la tête. « Mais je ne suis pas la maîtresse, mon fils, murmura-t-elle, et ton père. » « Mais mon père, interrompit le jeune homme, mon père, mais quel droit peut-il avoir sur nous désormais ? Et sans plus discuter, sans attendre une réponse, il prit la main de sa sœur et, la mettant dans la main de Monsieur de Trégard, « Ah, qu'elle soit votre femme, monsieur » prononça-t-il. « Jamais, quoi qu'elle fasse, elle n'acquittera la dette d'éternelle reconnaissance que nous contractons envers vous. » Un tressaillement qui le secoua, un long regard qu'ils échangèrent, trahir seuls les sensations de Marius et de Mademoiselle Gilberte. Ils avaient de la vie une trop cruelle expérience pour ne pas défier de leur joie. Revenant à Madame Favoral, « Vous ne comprenez pas, madame, reprit-il, que j'ai choisi pour une démarche telle que la mienne le moment où vous frappe un irréparable malheur. Un mot vous expliquera tout. Pouvant vous servir, je voulais en avoir le droit. » Arrêtant sur lui un regard où se lisait le plus morne désespoir. « Hélas !» balbutia la pauvre bonne femme, « que voulez-vous? Que pouvez-vous pour moi, monsieur? Ma vie est désormais finie. Je n'ai plus qu'à désir, savoir où se cache mon mari. Ce n'est pas à moi de le juger. Il ne m'a pas donné le bonheur que peut-être j'étais en droit d'espérer. Mais il est mon mari. Il est malheureux. » Mon devoir est de le rejoindre, où qu'il se soit réfugié, et de partager ses souffrances. » Elle fut interrompue par la servante qui, ouvrant la porte du salon, l'appelait « Madame, madame !»« Qu'y a-t-il ? » demanda Maxence. « Il faut que je parle à madame tout de suite. » Faisant un effort pour se dresser et marcher, Madame Faverolles sortit. Elle ne fut dehors qu'une minute, et lorsqu'elle reparut, son désordre s'était encore accru. Peut-être est-ce un coup de la Providence, dit-elle. Inquiet, les autres l'interrogeaient des yeux. Elle s'assit, en s'adressant plus spécialement à Monsieur de Trégard. Voici ce qui arrive, reprit-elle d'une voix faible. Monsieur Faverolles, qui était l'économie même, ici du moins, avait l'habitude, dès qu'il rentrait, de changer de vêtements. Et comme toujours, hier soir, il en a changé. Et lorsqu'on s'est présenté pour l'arrêter, il a oublié à ce détail et il s'est enfui avec la vieille redingote qu'il avait sur lui. Sa redingote neuve était restée accrochée au porte-manteau de l'antichambre. Alors la domestique l'a prise tout à l'heure pour la brosser et la serrer. Et il en est tombé, ce portefeuille, qui ne quittait jamais mon mari. C'était un vieux portefeuille de cuir de Russie, qui avait été rouge jadis, mais noirci par l'usage, crasseux et tout éraillé. Il était gonflé de paperasse. Peut-être, en effet, s'écria Maxence, y trouverons-nous une indication. Il l'ouvrit, et il l'avait déjà plus d'aux trois quarts vidé, sans y rencontrer que des papiers et des notes sans signification pour lui. Lorsque tout à coup il poussa un cri. Il venait de déplier un billet sans signature, d'une écriture visiblement déguisée, et d'un coup d'œil il avait lu. Je ne conçois rien à votre négligence. Il faudrait en finir avec cette affaire Van Kloppen. Là est le danger. Qu'est-ce que ce billet? Demanda M. de Trégard. Maxence le lui tendit. Voyez, dit-il, vous ne comprendrez pas l'intérêt immense qu'il a pour moi. Mais l'ayant parcouru, oh, vous vous trompez, fit Marius. Je comprends et je vous le prouverai. L'instant d'après, d'une autre poche du portefeuille, Maxence retirait et lisait à haute voix la facture d'un magasin d'articles de voyage daté de l'avant-veille et ainsi conçu. Vendu à 2 malles cuir, serrure de sûreté, à 220 francs l'une, si 440. Monsieur de Trégard avait tressailli. Enfin, s'écria-t-il, mais voilà sans doute le bout de fil qui, à travers ce dédale d'iniquité, nous conduira à la vérité. Et frappant sur l'épaule de Maxence, nous avons à causer, lui dit-il longuement. Demain, avant de reporter à M. de Thaler ses 15 000 francs, passez chez moi, je vous attendrai. Nous voici attelés à une œuvre commune, et quelque chose me dit qu'avant qu'il soit longtemps, nous saurons ce qu'est devenu l'argent qui a été pris dans la caisse du comptoir du Crédit Mutuel.
Quand je pense, disait Coleridge, que tous les matins, à Paris seulement, 30 000 gaillards s'éveillent et se lèvent, avec l'idée fixe et bien arrêtée de s'emparer de l'argent d'autrui, c'est avec une nouvelle surprise que, chaque soir en rentrant, je retrouve mon porte-monnaie dans ma poche. Ce n'est cependant pas ceux qui s'attaquent directement au porte-monnaie qui sont les plus malhonnêtes ni les plus redoutables. S'embusquer au coin d'une rue sombre et se ruer sur le premier passant venu en lui demandant « La bourse ou la vie ?» C'est un pauvre métier, un métier de dupe, dépouillé de prestige et depuis longtemps abandonné aux natures chevaleresques. Il faut être un peu plus que simple pour travailler encore sur les grands chemins, exposé aux avanies de la gendarmerie, quand l'industrie et la finance offrent un champ si magnifiquement fertile à l'activité des gens d'imagination. Et pour se rendre bien compte de la façon dont on y opère, il suffit d'ouvrir de temps à autre la casette des tribunaux et d'y lire par exemple un procès, comme celui du sieur Le Furteux, l'ex-directeur de la Société pour le dessèchement et la mise en valeur des marais de l'Orne. Ceci se passait où, il n'y a pas un mois, en police correctionnelle. Le président au prévenu. Votre profession? Le sieur le furteux. Directeur de la société. Avant, que faisiez-vous?
Je faisais des affaires à la bourse.
Vous étiez sans ressources?
Alors, pardon, je gagnais de l'argent.
Et c'est dans ces conditions que vous avez eu l'audace de constituer une compagnie au capital de 3 millions divisé en actions de 500 francs?
Ayant trouvé une idée, je ne croyais pas qu'il me fût interdit d'exploiter.
Mais qu'appelez-vous une idée?
Celle de dessécher les marais et de les rendre à l'agriculture.
Quels marais? Les vôtres n'ont jamais existé que dans vos prospectus. Vous n'en possédez ni dans l'Orne ni ailleurs. Vous avez poussé l'impudence jusqu'à ce point de fonder une société pour l'exploitation d'une chose qui n'existe pas.
Je comptais acheter des marais dès que j'aurais réuni mon capital. Et en attendant, vous promettiez 10% à vos souscripteurs.
C'est le moins que rapportent des dessèchements. Vous avez fait de la publicité?
Nécessairement.
Pour quelle somme?
Oh, pour environ 60 000 francs.
Et où les avez-vous pris?
Ben, j'ai commencé avec 10 000 francs que m'avait prêté un de mes amis, et j'ai continué avec les fonds qui me rentraient.
C'est-à-dire que vous employiez l'argent de vos premières dupes à faire des dupes nouvelles.
Non, beaucoup de gens croyaient l'affaire bonne.
Lesquels? Ceux à qui vous adressiez vos prospectus? Ou se voyaient un plan de vos prétendus marais?
Oh, pardon, d'autres encore.
Enfin, des fonds vous ont été versés, car c'est quelque chose d'inouï que la crédulité publique. Combien avez-vous reçu?
L'expert vous l'a dit, environ 600 000 francs.
Que vous avez dépensé?
Alors permettez, je n'ai jamais appliqué à mes besoins personnels que les appointements que m'attribuaient les statuts.
Cependant, lorsqu'on vous a arrêté, on a retrouvé dans votre caisse qu'une somme de 1250 francs qui vous avait été adressée par la poste le matin même. Qu'est devenu le reste?
Le reste a été dépensé dans l'intérêt de l'affaire.
Naturellement. Vous aviez une voiture?
Elle m'était allouée par l'article 27 des statuts.
Dans l'intérêt de l'affaire, toujours.
Certainement. J'étais obligé à une certaine représentation. Le chef d'une affaire importante doit s'appliquer à inspirer la confiance.
Était-ce aussi pour vous attirer cette confiance? Vous aviez une maîtresse pour laquelle vous dépensiez des sommes considérables?
Le prévenu, de l'accent de la plus entière bonne foi.
Oui, monsieur.
Après un moment de silence, le président reprend.
Vos bureaux étaient magnifiques. Leur installation a dû vous coûter très cher.
Presque rien, au contraire, monsieur. Tous les meubles qui les garnissaient étaient loués. On peut interroger le tapissier.
Le tapissier est mandé, et sur les questions de monsieur le président. Monsieur le fureteur, répondit-il, a dit vrai. Ma spécialité est de louer des agencements de bureaux pour sociétés financières et autres. Je fournis tout, depuis les pupitres des employés jusqu'aux meubles du cabinet du directeur, depuis la caisse de fer forgé jusqu'à la livrée des garçons. En 24 heures, tout est en place et l'actionnaire peut se présenter. Dès qu'une affaire se monte, dans le genre de celle de monsieur, on vient me trouver, je suis connu, et selon l'importance du capital auquel on fait appel, je fournis une installation plus ou moins luxueuse. C'est l'habitude, n'est-ce pas? Je sais ce qu'il faut. Quand monsieur le Furtum est arrivé, j'ai tout de suite toisé son opération. 3 millions de capital, démarré dans l'Orne, une action de 500 francs, petits souscripteurs inquiets et criards. Très bien, lui ai-je dit, c'est une affaire de 6 mois, ne vous mettez pas des frais inutiles sur le dos. Prenez du repos pour votre cabinet, c'est assez bon. Le président, d'un ton de surprise profonde. Vous lui avez dit cela? le tapissier de l'accent de simple franchise d'un honnête homme. Exactement, comme j'ai l'honneur de vous le dire, monsieur le président. Il a suivi mon conseil, et je lui ai fourni toute chaude encore l'installation de la compagnie des pêcheries fluviales, dont le gérant venait d'être condamné à 3 ans de prison. Après de telles révélations, qui de semaine en semaine se renouvellent avec d'instructives variantes, on serait presque en droit de se demander comment la plus sûre et la plus loyale affaire peut encore trouver un souscripteur si on ne savait que la lignée féconde de Gogo ne s'éteindra qu'avec l'espèce humaine. Les financiers d'imagination se plaignent amèrement de l'actionnaire, devenu, prétendent-ils, récalcitrant et défiant. C'est une injustice et une calomnie. Si rudement étrié qu'il ait été depuis 50 ans, l'actionnaire est resté le même, laissant toujours son cœur battre de convoitise à la lecture du prospectus qui lui promet gravement 10% de son argent. Il se peut qu'il recule devant une bonne opération, et devant une mauvaise, jamais. Tout comme jadis, il est prêt à se serrer le ventre pour courir porter ses économies aux mines de Tifila, aux terrains de Bretenèche et autres forêts de Fort-Manoir, entreprise admirable dont les directeurs errent à l'étranger, victimes de l'ingratitude de leurs contemporains. Comment, de telles conditions, le comptoir de crédit mutuel eût-il manqué de souscripteurs? C'était bien une autre affaire que cette pauvre invention des marais de l'Orne. Une affaire qui avait été admirablement lancée à l'heure propice du coup d'État de décembre, à un moment où les idées de mutualité commençaient à pénétrer dans le monde de la finance. Ni les capitaux, ni les patronages puissants ne lui avaient manqué au début, et il avait suffi de paraître pour être admise aux honneurs de la cote. S'adressant à l'industrie, sous le prétexte de lui épargner l'intermédiaire ruineux des banquiers ou les rigueurs parfois mortelles de la banque, le crédit mutuel avait eu, pendant ses premières années, une spécialité parfaitement déterminée. Mais il avait peu à peu élargi le cercle de ses opérations, remanié ses statuts, changé ses administrateurs et, vers la fin, ses souscripteurs primitifs eussent été bien embarrassés de dire son genre d'affaires et à quelles ressources il puisait ses bénéfices. Ce qu'on savait, c'est qu'il donnait toujours de respectables dividendes. Ce qu'on disait, c'est que son directeur, le baron de Thaler, avait une fortune personnelle considérable et qu'il était bien trop habile pour ne savoir point passer sans accroc à travers les articles du code, de même que les clowns du cirque à travers les fonderies pipes. Ce n'est cependant ni les envieux ni les détracteurs qui manquaient. Vous rencontriez fréquemment des gens qui, hochant la tête et clignant de l'œil, vous disaient d'un air capable: « Prenez garde, le crédit mutuel donne des bénéfices magnifiques, mais on sait ce que devient à la fin le capital de toutes ces compagnies qui distribuent des dividendes si beaux. » D'autres, plus perfides, attaquaient directement M. de Thaler. « Ce qu'il y en a qui est tort, remarquait-il, c'est qu'il a de toutes les spéculations. Il se tripote pas une affaire véreuse qu'il y ait la main. Il est possible qu'il soit très riche, il est sûr qu'il mène un train de prince. Son hôtel est un palais. Sa femme et sa fille ont les plus luxueux équipages et les plus coûteuses toilettes de Paris. » Sa maîtresse lui dépense des sommes folles. Enfin, pour brocher sur le tout, il joue et il a la passion des bibelots, et on ne voit que lui à l'hôtel des ventes, poussant avec fureur des porcelaines et des tableaux. Ne sont-elles pas quand même amèrement décriées? N'est-il pas archi-connu que les financiers de haut vol sont l'éternel sujet des clabaudages et des calomnies de toute cette tourbe d'impudents et avides tripoteurs qui rôdent autour des grandes entreprises comme les chacals autour du banquet des lions? Quelle est la société dont on n'a pas un peu écrit « c'est une filouterie » et quel est le gérant dont on n'a pas dit au moins une fois « c'est un filou » Le positif, c'est que les actions du comptoir du crédit mutuel étaient fort au-dessus du père et faisait 580 francs, le samedi ou à l'issue de la bourse, le bruit se répandit que le caissier Vincent Favoral venait de s'enfuir en emportant 12 millions. Quel coup de filet, pensa, non sans un mouvement de jalousie, plus d'un boursier qui, pour le 12e seulement, eût gaiement passé la frontière. Ce fut presque un événement dans Paris. On y est fort accoutumé à de telles aventures, à ce point blasé que c'est à peine si, pour voir filer un caissier, on daignerait tourner la tête. Mais en cette occasion, l'énormité de la somme rehaussait la vulgarité du procédé. On jugea généralement que ce Favoral devait être un homme fort, et quelques amateurs déclarèrent que prendre 12 millions, ce n'est presque plus voler. Le soir, en s'abordant sur le bitume aux environs du passage de l'Opéra, les habitués de la petite bourse étaient étonnés et presque émus. Ils se consultaient entre eux. Tolérait-il de l'opération? S'entendait-il avec son caissier? Ben oui, toute la question est là. Et si oui, le Crédit Mutuel est en meilleure position que jamais. Ben oui, sinon, le voilà coupé. Thaler était bien fin. Ben, le Favoral l'était peut-être plus que lui. Cette incertitude, pendant la première demi-heure, soutint un peu les cœurs. Mais vers 9h30, des nouvelles si désastreuses se répandirent de tous côtés, apportées on ne savait par qui ni d'où, que ce fut une panique irrésistible. De 435 francs où il était maintenant tenu, le Crédit Mutuel tomba brusquement à 300, puis à 200, puis à 150 francs. Des amis de M. de Thaler, M. Costeclar, entre autres, avaient essayé de réagir, mais ils n'avaient pas tardé à reconnaître l'inutilité de leurs efforts, et bravement, ils s'étaient mis à faire comme les autres. Trois messieurs, qui étaient allés s'installer au café du divan, au fond du passage, semblaient diriger le mouvement et manœuvrer comme s'il est d'usage quand on veut couler une affaire. Ils avaient des agents sur le boulevard et de 10 minutes en 10 minutes, il leur expédiait un émissaire, un vieux bonhomme, quelque peu boiteux et boissu, avec l'ordre de vendre encore et toujours et à tout prix. Si bien qu'à 10h30, on n'eût pas trouvé 500 francs comptant de 20 actions du Crédit Mutuel. Le dimanche, ce fut une autre histoire. Dès le matin, on donnait comme positive partout l'arrestation du baron de Thaler, et même on l'enjolivait de quantité de détails. Cependant, le soir même, le fait fut démenti par les gens qui, étant allés aux courses, y avaient rencontré Madame de Thaler et sa fille, plus brillante que jamais, très gaie et très causeuse. Aux personnes qui allaient la saluer, « Ah, mon mari n'a pu venir, disait la baronne, tout occupé qu'il est, avec deux de ses employés, à débrouiller les écritures de ce malheureux Favoral. C'est à ce qu'il paraît un gâchis inconcevable. Qui jamais eût cru cela d'un homme qui vivait de pain et de noix? Mais il jouait à la bourse, et il avait organisé, grâce à un prête-nom, une sorte de banque où il a englouti le plus sottement du monde des sommes considérables. » Mais toute souriante, comme après un danger définitivement conjuré, « Heureusement, ajoutait-elle, le mal n'est pas aussi grand qu'on ne sait plus le raconter. Et cette fois encore, nous en serons quittes pour la peur. » Mais ce n'étaient pas les discours de la baronne qui pouvaient rassurer les gens qui se sentaient en poche les titres sans valeur du Crédit Mutuel. Et le lendemain, lundi, dès 8h, ils arrivaient en bande demander des explications à M. de Thaler. C'est rue du 4 septembre que sont installés les bureaux de comptoir de Crédit Mutuel, dans une de ces maisons massives qui sont comme les forteresses de la féodalité financière. D'un seul coup d'œil, le passant y croit reconnaître une de ces puissants établissements qui remue les millions par centaines de mille. Bien qu'en mettant le pied dans l'immense vestibule dallé de marbre, à hautes colonnes et à statues de bronze soutenant des candélabres, l'actionnaire se sent ému. Son émotion se complique d'un ébahissement respectueux lorsqu'il a poussé les lourdes portes de glace et qu'il s'est engagé dans le vaste escalier de pierre à rampes dorées, habillé d'un tapis moelleux et meublé à chaque palier de banquettes de velours, larges et souples comme le lit de repos d'une duchesse. La timidité le prend lorsque, arrivé au premier étage de ce palais de l'argent, des autres, il lit en lettres d'or sur une porte de palissandre comptoir de crédit mutuel. Cependant, il rassemble tout son courage. Une inscription TLBSVP lui dit ce qu'il doit faire. Il tourne le bouton et il entre. Mais il demeure interdit de se trouver en présence d'un huissier tout de noir habillé, la chaîne d'acier au cou, lequel, s'inclinant d'un air grave, demande « Que désire monsieur? » D'une voix un peu troublée, il explique qu'il est venu pour souscrire et qu'il voudrait « Que monsieur prenne la peine de me suivre à la caisse », interrompt l'huissier. Il prend cette peine, et tout en longeant un spacieux corridor, il a le temps d'entrevoir des bureaux peuplés d'employés, puis la salle du conseil avec sa grande table recouverte d'un tapis où brille la sonnette du président, et plus loin le cabinet de monsieur le directeur, avec ses tentures de drap vert, ses meubles de chêne, son bureau encombré de papier, sa cheminée monumentale surmontée d'une pendule à sujets sévères. Et tout en marchant, il rougit du peu d'importance de sa souscription. Il a honte de la modicité de la somme qu'il apporte à des caisses qui lui semblent renfermer sous leur triple serrure les trésors des mille et une nuits. Autant porter une goutte d'eau au fleuve ou un grain de sable aux dunes de l'océan. Il se demande presque si on ne va pas lui rire au nez. Mais non! C'est d'un air froid et morne que le caissier reçoit sa souscription et lui passe en échange par le guichet étroit un titre provisoire. Il se retire alors, mais lentement. Les 6 ou 8 titres qu'il sent dans son portefeuille lui donnent de l'assurance. Il lui semble que toutes les splendeurs qui l'environnent, sur toutes elles, il a un certain droit de propriété. Et c'est d'un pied plus ferme et d'un jarret mieux tendu qu'il foule les marches de l'escalier. Il y a du maître dans le geste dont il repousse la porte du vestibule. Et c'est l'esprit tranquille et le cœur content qui se retire, rêvant déjà de ces dividendes fabuleux dont on se transmet le souvenir à la bourse, ou de ces hausses soudaines qui centuplent en 3 ans le capital versé et qui font qu'en 1872, on retire 6 000 francs de rente d'une action qu'on a payée 500 francs en 1833. Beaucoup des actionnaires du comptoir de crédit mutuel avaient passé autrefois par ces émotions délicieuses. Elles ne leur rendaient que plus pénibles celles qui les agitaient en ce moment, réunis qu'ils étaient au nombre d'une centaine environ, dans le vestibule, le long de l'escalier et sur le palier du premier étage de la maison de la rue du 4 septembre, car on refusait de les admettre. À tous ceux qui assistaient pour entrer, un grand diable de domestique planté devant la porte répondait invariablement « Les bureaux ne sont pas ouverts, monsieur le Thaler n'est pas arrivé. » Nerveux, quinteux, bizarre, le plus souvent bénin, mais quelquefois féroce, d'une crédulité stupide ou d'une défiance idiote, tel est l'actionnaire, cet infortuné qui se sait traqué de toutes parts et entouré de pièges, ce malheureux qui, possédant quelque argent, brûlent de le risquer et tremblent de le perdre. Mais celui-là ne le connaît pas, qu'il a vu seulement au début, à la fin de sa carrière de dupe. Le jour où, tout illuminé d'espoir, il confie ses fonds à quelque société nouvelle, et le jour où, désespéré, il découvre que ses fonds sont perdus. Que d'alternatives entre ces deux termes extrêmes, et que de palpitations, quels accès de découragement ou de joie, selon que le journal annonce une hausse ou une baisse. Mais le moment critique de l'actionnaire est celui où il commence à soupçonner son malheur. C'est de l'étonnement d'abord, quelque chose comme la stupeur du paysan qui, ayant rompu son pacte avec le diable, voyait se changer en feuilles sèches les louis d'or du malin. La colère ne vient que plus tard. La douleur d'avoir été dépouillé d'un argent péniblement gagné, la rage d'avoir été pris pour dupe. Et c'est à ce point précisément qu'en étaient les actionnaires du comptoir de crédit mutuel. Et comme la fureur de chacun d'eux s'augmentait de la fureur de tous, comme ils s'exaltaient et s'animaient mutuellement, c'était dans le vestibule, le long de l'escalier et sur le palier, de telles imprécations et de si terribles menaces que le portier, épouvanté, s'était blotti tout au fond de sa loge. Il faut avoir vu une réunion d'actionnaires au lendemain d'un désastre. Il faut avoir vu les poings crispés, les faces convulsées, les yeux hors de la tête et les lèvres frangées d'écume, pour savoir à quelles contorsions épileptiques la rancune de l'argent réduit les hommes rassemblés. Ceux-ci en étaient à s'indigner de ce qui les avait enchantés jadis. Ils s'en prenaient de leur ruine à la splendeur de la maison, aux somptuosités de l'escalier, aux candélabres du vestibule, aux tapis, aux banquettes, à tout. « Mais c'est pourtant notre argent, criait-il, qui a payé tout ce luxe. » Monté sur une banquette, un tout petit homme soulevait des transports d'indignation en décrivant les magnificents incendies de l'hôtel de Thaler dont il avait été le fournisseur autrefois avant de se retirer du commerce. Il avait compté jusqu'à 5 voitures sous les remises, 15 chevaux dans les écuries, et il ne savait plus combien de domestiques. Il n'était jamais entré dans les appartements, mais il avait visité les cuisines, et il déclarait avoir été étourdi et ébloui du nombre et de l'éclat des casseroles rangées par ordre de taille au-dessus des fourneaux. « C'est qu'il en faut de ces casseroles pour fricasser 12 millions, » disait-il, arrivé à ce degré où la fureur, faute d'expression, tourna l'ironie. Réunis en groupe dans le vestibule, les plus sensés déploraient leur imprudente confiance. « Voilà, » concluait l'un, « la fin de toutes ces affaires industrielles. » Oui, c'est vrai, il n'y a que la rente. Et encore, parlez-moi des placements de nos pères, de bons placements, sur première hypothèque, avec subrogation dans les droits de la femme. Si le débiteur ne paye pas, on vend. Voilà le bon système. Oh, on y reviendra. Mais ce qui les espérait tous, c'était de pouvoir être admis auprès de M. de Thaler et de voir ce domestique en faction devant la porte. « C'est tout de même hardi de nous laisser sur l'escalier, nous qui sommes les maîtres, » grondait-il. « Et qui sait où est M. Thaler ?»« Il se cache, parbleu. »« N'importe, je le verrai, » clamait un gros homme à face couleur de brique. « Je le verrai quand je devrais, nom de nom, pas bouger d'ici de la semaine. » « Mais vous ne verrez rien, » ricanait son voisin. « Et les escaliers de service, et les portes dérobées, croyez-vous qu'il en manque dans cette satanée boutique ?» Le gros homme en roulait les yeux terribles. « Oh, si je savais cela !» disait-il d'une langue empâtée par le sang qui lui montait à la tête. « Je débats une porte, c'est pas la mer à boire !» Et il montrait ses épaules d'athlète. Et il affirmait qu'il entrerait et qu'il passerait quelqu'un par les mains. Déjà, il toisait le valet d'un regard inquiétant, Quand un bonhomme, à mine discrète, s'avança et lui demanda « Pardon, combien avez-vous d'actions ?»«
Trois !» répondit l'homme à figure morique.
L'autre soupira. « Mais moi, j'en ai 250, » dit-il. « C'est pourquoi, étant aussi intéressé que vous, pour le moins ne pas tout perdre, je vous conjure de ne vous porter à aucune violence. » Il n'eut pas besoin d'insister. La porte que gardait le domestique s'ouvrit. Un employé se montra, faisant signe qu'il voulait parler. «
Messieurs, commença-t-il, monsieur de Thaler vient d'arriver, mais il est en ce moment avec monsieur le juge d'instruction. »
Des huées ayant couvert sa voix, il se retira précipitamment.
« Si la justice s'en mêle, murmura le vieux sieur discret, adieu, panier et vendanges sont faites. »
« C'est vrai, » ricana un autre, « mais nous aurons le précieux avantage d'entendre condamner ce cher baron de Thaler à un an de prison et à 50 francs d'amende. C'est le tarif pour 500 familles mises sur la paille. Il n'en serait pas quitte à si bon marché s'il avait volé un pain à la porte d'un boulanger.
Vous croyez donc à cette histoire de juge, vous ?» interrompit brutalement le gros homme.
Il fallut bien y croire.
Quand on le vit paraître, suivi d'un commissaire de police et d'un commissionnaire qui portait sur son crochet des registres des papiers. On s'écarta pour les laisser passer, mais nulle réflexion n'eut le temps de se produire, car un nouvel employé se présenta qui dit « Monsieur le baron de Thaler est à vos ordres, messieurs, veuillez entrer. » Ce fut alors une terrible poussée pour savoir qui arriverait premier à la salle du conseil qu'on apercevait toute grande ouverte. Monsieur de Thaler s'y tenait, debout contre la cheminée. Il n'était ni plus pâle ni plus troublé que d'ordinaire. On sentait le maître de soi et sûr de ses moyens. Dès que le silence se fut rétabli, « Avant tout, messieurs, commença-t-il, je dois vous dire que le conseil va se réunir et qu'une assemblée générale sera convoquée. » Pas un murmure, comme un coup de baguette, les dispositions des actionnaires semblaient changer. « Je n'ai rien à vous apprendre, poursuivit-il. Ce qui arrive est un malheur, mais non pas un désastre. Il s'agissait avant tout de sauver la société. » J'avais pensé d'abord à un appel de fonds.
« Dame, » firent deux ou trois voix timides, « s'il le fallait absolument.
J'ai reconnu qu'il n'en était pas besoin.
Ah !
Dès que j'assurerai le fonctionnement de nos services, en ajoutant à notre fonds de réserve ma fortune personnelle. »
Ah ! Pour le coup, les bravos éclatèrent. Monsieur de Thaler les reçut en homme qui les mérite, et plus lentement.
« C'était un devoir d'honneur, continua-t-il. Je vous l'avoue, messieurs, le misérable qui nous a si indignement trompés avait toute ma confiance. Vous comprendrez mon aveuglement lorsque vous aurez avec quelle infernale adresse à procéder le caissier infidèle. »
Et de tous côtés, des imprécations s'élevaient à l'adresse de Vincent Favoral. Mais déjà le directeur du Crédit Mutuel poursuivait.
« Pour le moment, je n'ai à vous demander que du calme et la continuation de votre confiance. »«
Oui, oui, la panique d'avant-hier soir n'était qu'une manœuvre de course organisée par des établissements rivaux qui espéraient s'emparer de notre clientèle. » Leurs calculs sont déjoués, messieurs. Ce qui devait nous renverser démontre victorieusement notre solidité. Nous sortirons de cette épreuve le plus puissant que par le passé.
C'était fini. Monsieur de Thaler savait son métier. On lui votait des remerciements. Le sourire s'épanouissait sur toutes les lèvres, l'instant d'avant crispé par la colère. Seul un actionnaire ne semblait pas partager l'enthousiasme général, et celui-là n'était autre que M. Chapelain, l'ancien avoué.
Décidément, grommelait-il, le thaler est capable de s'en tirer. Il faut que je prévienne Maxence.